Alors nous allons voir ce soir ce que nous n'avons pas pu voir la semaine dernière, après avoir vu l'autel, qui est la première chose que l'on voit quand on entre dans le parvis de la maison de Dieu. Hein, nous avons vu l'autel avec les cornes, avec donc l'endroit du sacrifice qui représente vraiment notre Seigneur. Après, avant le tabernacle lui-même, cette bâtisse-là derrière, où se trouvent à l'intérieur plusieurs choses que nous aurons l'occasion de voir. Certains de vous les connaissez, le fameux chandelier à cette branche, hein, l'arche de l'Alliance aussi, vous connaissez, vous en avez entendu parler. Mais avant d'arriver là, à l'extérieur, pour le service, pour le pardon des péchés, il fallait faire des sacrifices. Et il y avait, après, l'autel, avant d'arriver devant le rideau, devant le tabernacle lui-même, il y avait une cuve. Et nous allons regarder Exode chapitre 30, à partir du verset 17. Alors si le chauffage vous gêne derrière, il y a des places devant. Hein. Là, lui, il ne marche pas. Là, il ne marche pas, là, devant. Vous venez devant. Oui, comme ça. Vous avez le choix. Celui qui ne marche pas et celui qui marche. Ça va mieux, là ? Très bien. Bon, alors, à partir donc du... Quelqu'un veut lire du verset 17 au verset 21, Exode 30.
L'Éternel parla à Moïse et dit : Tu feras une cuve d'airain avec sa lance d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants.
Voilà. Alors voilà la fameuse cuve d'airain. L'endroit où elle est placée, la façon dont elle est faite et son utilité sont des symboles très très intéressants sur la vie chrétienne et le service, puisque c'est Aaron et ses fils, donc tous ceux qui s'occupaient du tabernacle, qui allaient donc régulièrement se laver les mains, les pieds. Il est évident que pour après entrer à l'intérieur du tabernacle, eh bien bon, il fallait être propre quand même, et de sacrifier des animaux, les découper, brûler, entretenir le feu. Était un service qui amenait aussi, bien sûr, la nécessité de se laver. En plus, marcher sur la poussière, et il n'était pas question d'entrer dans le lieu saint sans s'être rafraîchi, nettoyer les pieds. Donc, on commence à entrevoir le principe derrière. Parce que cette cuve est une vraie figure de la confession, de la purification pratique du croyant dans sa marche. Le fait d'avoir passé l'autel, ou d'être passé par la croix, ou d'avoir, une fois pour toutes, reconnu en Jésus-Christ notre Sauveur, ne fera pas de nous des personnes parfaites. Nous allons être amenés régulièrement, à cause même de notre marche, à régulièrement revenir vers une purification journalière. Et c'est ce que représente cette cuve. On notera qu'elle n'est pas mentionnée dans la première description du tabernacle, au chapitre 25, Pourquoi? Parce que la première description du tabernacle va dans le sens du ciel vers la croix. C'est-à-dire, ça commence par l'arche et on va vers l'autel. Donc, c'est Dieu vers les hommes. Et lui n'a pas besoin de purification. Mais cette fois, nous qui sommes au service de Dieu, nous avons régulièrement besoin de purification. Donc l'arche est l'image de Christ, c'est le chemin de Christ qui vient du Père vers nous. Et cet emplacement entre l'autel des reins, l'autel des sacrifices et l'entrée du sanctuaire est quelque chose de précieux parce que c'est un endroit qui va après la croix, le salut est acquis, c'est certain, la vie éternelle, elle est assurée. Mais nous savons tous que la chair demeure dans le cœur du croyant et qui nous expose régulièrement à peut-être même avoir des interruptions avec notre relation avec Dieu, avec notre communion avec lui. Oui ?
J'ai une question.
Oui.
Comment demander la purification régulièrement ? Bon, moi, je sais que je le fais dans la prière, mais est-ce que c'est ce moyen ou il y a...
Alors, il y a plusieurs moyens. C'est très bonne question. Il y a plusieurs moyens. Il faudra lire la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, il est déjà dit, celui qui dit « je n'ai pas de péché » est un menteur. Donc, ça c'est clair. Et il y a ce verset qui est précieux pour les croyants aussi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et régulièrement, quand on se sent troublé ou quand on est repris dans notre conscience, on sait là où on a perdu la communion. Et au fond, on sait, on peut nommer presque la chose, voilà, je suis parti en vrille, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et on demande pardon à Dieu. Après, la cuve. Comment elle était faite, la cuve ? Hein ? Elle était faite en airain et ça venait d'où ? Il y a des précisions. Ça avait été fait avec des miroirs des femmes. C'était un airain poli. Évidemment, les miroirs à l'époque, ce n'était pas en verre comme maintenant. Mais donc, il y avait. La Bible nous parle des miroirs. Verset 8, je crois, il fit la cuve d'airain. Son soubassement était des reins avec les miroirs des femmes. Et donc, dans la Bible, le miroir est une image de la parole de Dieu. Alors, à la question, mais comment être purifié chaque jour ? À un moment donné, après la croix, donc après l'autel, hein, dans notre service pour le Seigneur, nous sommes gardés, je dirais, propres et convenables en se nourrissant de la parole de Dieu et en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. Il y a même un verset dans le psaume 119 que vous connaissez probablement avec ce sujet, c'est « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et un homme de Dieu avait dit ceci, le péché te gardera de ce livre, mais ce livre te gardera du péché. Et vous remarquerez les périodes de votre vie où vous n'ouvrez plus la Bible, eh bien, tout descend. Et s'installe une accumulation de poussière, on va le dire comme ça, comme les mains et les pieds de ceux qui servaient, la poussière pouvait s'accumuler, mais si on ne va pas vers la pensée de Dieu, Dieu nous parle par la parole et quand on prie, on répond. Mais si on abandonne ça, la poussière va s'accumuler. Ça fait partie des choses qui nous gardent aussi. Et vous remarquerez la différence dans les périodes où notre cœur, nos pensées sont nourries de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de précieux. Donc c'est un lavage pratique de l'eau de la parole. Ce n'est pas le lavage de la régénération. On demande à Dieu de nous pardonner quand on l'accepte. Et il fait de nous ses enfants. La Bible dit qu'il nous scelle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand il vient dans notre cœur, nous devenons son temple. Et nous sommes en quelque sorte, rien que nous, son tabernacle. Il habite en nous. Nous sommes scellés. Alors un sceau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Là, il y a même un passage dans le livre d'Esther qui dit que le sceau du roi est quelque chose d'irrévocable. Quand c'était scellé, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est une marque d'appartenance. La présence de Dieu dans notre cœur, quand on l'accepte, fait qu'on lui appartient. Et quand on se salit, eh bien, on vient, on demande pardon au Seigneur, il nous purifie, et aussi, on est lavé par la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ceux qui décident de garder certaines choses qu'il faudrait mettre en règle, ils n'arrivent même pas à profiter de la parole de Dieu. Il est gêné, parce qu'il la voit, il la lit, mais il faudrait qu'il s'y plonge, il faudrait qu'il l'accepte, il faudrait qu'il se l'approprie. Alors il est là, qu'est-ce que je fais? Je me lave, j'abandonne ce que je fais, ou je reste avec mes petites affaires? Vous voyez, hein? Alors c'est ainsi que la cuve, dans ce sens, est quelque chose de précieux. Parce que c'est quelque chose qui sera répétitif. Pourquoi se laver les mains et les pieds, hein? Eh ben, ça fait partie de notre marche. Alors on peut lire quelque chose dans le Nouveau Testament qui ressemble un peu à cela. Il y a à un moment donné, dans Jean, au chapitre 13, Jean 13, une image assez intéressante de Jésus-Christ et l'apôtre Pierre. Lorsque le Seigneur veut laver les pieds des disciples. Alors, quelqu'un peut lire l'histoire, vous, qu'il avait trouvé dans Jean 13. Alors, je ne peux pas le voir, j'oublie mes lunettes. Donc, il y a des choses que je ne peux pas lire ce soir. Je ne sais pas où ça commence.
Jean 13, 3.
Voilà, vous pouvez lire plusieurs versets, surtout le dialogue entre Pierre et Christ, parce que Pierre ne veut pas que le Seigneur le lave. Alors, lisez-le à partir du verset 3, alors.
Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Et vous êtes purs, mais non pas tous.
Voilà, merci. Voilà, donc là, on voit le lien. Le Seigneur dit, mais vous êtes purs, mais vous n'avez besoin que de laver les pieds. C'est un aspect de notre relation avec le Seigneur qui est importante. Nous commettons des fautes, nous avons des défaillances, et parfois même c'est... Nous péchons parce que nous ignorons la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu va aussi être un miroir qui va nous révéler ce que Dieu veut pour nous. Qui va aussi, comme un miroir, le matin, quand vous voyez ce que vous voyez quand vous vous réveillez, et vous arrivez devant le miroir, il vous montre qui vous êtes. Il ne vous montre pas qui vous aimeriez être. Et quand j'ouvre la parole de Dieu, paf, je reçois exactement le profil exact des choses. Mais notre situation est fragile, mais notre position est solide. Vous êtes pur, mais notre situation est fragile. Il faut savoir accepter d'avoir les pieds lavés. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans le service. Le passage par la cuve est constamment nécessaire. La Bible dit, au moment de prendre la scène, quand on distribue le pain et la coupe le dimanche matin, il est écrit que chacun s'éprouve soi-même. Donc là, on est devant la cuve. Où en suis-je? Et on a besoin de cela si on veut approfondir, enrichir notre relation avec Dieu. Et en passant du temps à lire, à étudier la parole au quotidien, Dieu, par le Saint-Esprit, va utiliser cette parole pour nous instruire, pour nous transformer. Puisqu'il est écrit dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, etc. La cuve, est, je crois, le seul élément du tabernacle dont les mesures ne nous sont pas données. On ne sait pas, si elle était grande, petite. Hein. C'est remarquable, même l'absence de ce détail. Et donc, c'est quelque chose d'illimité. Alors, il ne s'agit pas de jouer avec le péché, mais la grâce de Dieu est sans limite. Heureusement pour nous. On peut constamment venir et profiter pour, aussi fréquente soit-elle, aussi grave soit-elle, comme il est écrit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité.
Un
9. Voilà. Et il y a des psaumes qui complètent cela, puisqu'il fallait se laver les mains. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Nous dit le psaume 24. Celui qui a les mains pures. Donc, et même dans le Nouveau Testament, il est parlé d'élever vers Dieu des mains pures. Hein? Oui. C'est plus clair? C'est un peu plus clair?
Oui, oui, oui. Comment savoir si on est, la parabole du dimanche, qu'on est celui qui met le talent dans le jardin, ou si on est le talent...
Ah! Alors, je vois qu'on se souvient du message du dimanche, c'est bien. Comment savoir alors là, c'est un peu le bilan de notre vie. Dieu nous confie beaucoup de choses. Et c'est à nous, à ce qu'elles deviennent quelque chose qui soit utile pour lui. Donc il nous a donné des yeux, qu'est-ce que nous allons regarder avec nos yeux? Il nous a donné une langue, qu'est-ce qu'on va dire avec notre langue? Il nous a donné des choses pour penser, il nous a donné une énergie, il nous a donné... Voilà, du temps, et tout ça c'est un capital. Il faut le voir comme un capital. Et je pense particulièrement au temps qui s'écoule, hein, ce capital, ça me nuise. Mais voilà, c'est un capital. Et la Bible dit faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, c'est d'apprendre, avoir le réflexe de se dire est-ce que je peux glorifier Dieu avec ce que j'ai et non pas avec ce que je n'ai pas. Et il y a un verset personnellement dans 1 Corinthiens qui m'a toujours aidé. Et quand je cite ce texte, on ne le connaît tellement pas que les gens ne pensent même pas que c'est la Bible. Un verset du Nouveau Testament. Je n'aurais même pas dû vous dire que c'est un verset du Nouveau Testament. Je vais vous dire, quelqu'un l'a dit, et vous pensez, ben oui. Alors écoutez bien, toute la sagesse et la simplicité de ce texte. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle a à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et c'est Paul qui dit ça. Ouais. C'est remarquable. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, mais si j'avais tel don, ah, Dieu m'a... Il m'a peut-être donné des talents, mais on est toujours en train de regarder le talent de l'autre. Si j'avais tel talent, alors là, ça irait bien. Mais vous avez de la volonté. Et Dieu vous demande eh ben, de l'exprimer avec ce que vous avez, même si vous n'avez rien. Et non, ce que vous n'avez pas. Et ça, c'est hyper encourageant. Parce que si Dieu nous donne ce qu'il nous donne, c'est parce que ça nous est approprié, ça nous est, comment dire, c'est convenable pour cela, pour nous. Et Dieu a appelé des personnes à faire des choses extraordinaires, à vivre des aventures de foi incroyables. Mais Dieu a un scénario pour chacun de nous. Donc il ne faut pas se dire, oh là là, je ne serai jamais comme tel chrétien ou tel chrétien. Enfin, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou dire, compléter un petit témoignage. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc pour les talents, eh ben, il faut à partir d'aujourd'hui dire, voilà, je suis content, pour le dire aussi, je suis content dans l'état où je me trouve. Et voilà, j'ai ce que j'ai, je suis ce que je suis aujourd'hui, voilà. Ben Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ben... Certainement. Voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose à cela? Une question? Alors, après la cuve et le sel, nous allons arriver, on s'approche enfin de ce fameux tabernacle qui a une certaine hauteur, hein, 5 mètres de haut, de 5 mètres de large et 15 mètres de long. Et ce soir, je voudrais qu'on lise Exode 26. Voilà, là on voit mieux la structure. On va commencer à regarder un peu la structure des choses. Et c'est une pièce fermée avec, enfin il y a deux pièces en fait, hein. Une première pièce avec trois éléments, le chandelier, une table avec des pains et l'autel des parfums. Alors, qu'est-ce que nous avons dans Exode 26, 15 à 30? Il est parlé de quoi là? Des planches, non?
Des planches, oui, bien là.
Voilà. Vous voulez le lire, tu veux le dire?
Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sur les mêmes planches. Deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, deux bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux, placées aux deux angles. Il y aura aussi ainsi par 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches du même côté du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après une modèle qui était montré sur la montagne.
Merci. Voilà, tout est dit dans ce passage. C'est sûr que si vous lisez vite ce passage au petit-déj avant d'aller au travail, vous vous dites, mais quelle est la leçon pour la journée? Et pourtant, c'est vraiment précieux. C'est vraiment précieux parce que là, nous entrons dans des éléments qui vont constituer la maison de Dieu. Et quand on va dans le Nouveau Testament, la maison de Dieu, c'est nous. Et nous, c'est toute une structure dans laquelle se trouve la lumière, la présence de Dieu. Donc c'est vraiment une image merveilleuse de la maison, de l'édifice divin, qui est totalement applicable aussi à l'Église, à ce que le Seigneur bâtit. Et c'est absolument précieux parce que, d'abord, les bricoleurs vont apprécier en traduisant en moderne ce qui vient d'être dit. Donc ces planches qui permettaient de... Donc elles faisaient combien en hauteur? Vous vous souvenez?
5 mètres.
5 mètres de haut. 5 mètres de haut, c'est considérable. L'épaisseur...
75.
Alors quelqu'un, un mètre, Gino, t'as pas un mètre avec toi? Sûrement. Non, on ne va pas le chercher. 75?
C'est plus.
C'est... Voilà.
50, c'est ça.
Et l'épaisseur, c'est l'épaisseur aussi qui m'a surpris. 25.
25 d'épaisseur.
Donc 25, c'est à peu près ça. 25, 5 mètres de haut, 75 de large. Hein? C'est... Voilà, le... C'est... Alors, ces planches étaient tirées d'arbres, hein? Évidemment, mais recouvertes d'or. Et on estime le poids de chaque planche à 750 kg. 750 kg. Il y en avait 48. Donc c'était des choses énormes. Vraiment, c'était... Voilà. Et ça, c'était ce qui va constituer le... Non, elle n'est pas très nette, celle-là. Voilà. Toute la structure. Hein? Alors, ce que vous pouvez faire, si vous relisez Exode 26, relisez-le en vous disant « Je suis une planche. Je suis une planche et chaque planche, pour faire une... » Il y a une émission qui passe en ce moment, là, les aventuriers d'Alaska, là, qui se construisent des maisons, qu'ils abattent des arbres, etc., pour faire des grandes planches, pour faire leur maison. Mais ils coupent un arbre, mais pour avoir l'épaisseur et la largeur, je pense qu'un grand arbre permettait d'avoir une planche, pas 36. Mais il prenait le cœur d'un arbre, tout le tronc, et il dégageait une planche. Et c'est même ça, c'est une leçon là, de ces beaux arbres d'acacia très résistants et qui vont être sortis de la forêt, qui vont devenir des planches et qui vont devenir des éléments où le Seigneur est présent. Donc, on peut nous imaginer, nous étions voilà, cachés dans la forêt, on était un arbre qui poussait, et Dieu nous a pris au cœur du plus profond de nous-mêmes, il nous a transformés en quelque chose qu'il couvre d'or, qu'il couvre de sa grâce et de sa gloire. Et qui va être un élément où est portée la présence de Dieu. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Alors, ce qu'on apprend, c'est qu'elles étaient grandes, et ces planches-là, elles ont des socles. Il y en a deux socles par planche. Des socles d'argent. Évidemment, une fois converti, une fois transformé, si on devient la maison de Dieu, notre base, c'est plus la poussière. On ne touche plus le sol. On ne touche plus le sol. Notre base, c'est l'argent. Et dans l'argent, dans la Bible, c'est le prix de notre rachat. c'est les vérités fondamentales de la grâce de Dieu et de l'Évangile. Et là, toute la maison de Dieu repose sur quelque chose de précieux. Ainsi, si on transpose, là vous voyez, on a tous les éléments, les bases, on a les planches, nous allons parler aussi du fait qu'elles sont attachées ensemble, constitue la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu n'est pas en contact avec le monde et avec la saleté. Enfin, normalement, sa base, c'est une autre sagesse. Et on s'aperçoit que quand les églises veulent imiter le monde ou reprendre la sagesse du monde dans beaucoup de domaines, y compris dans l'organisation, le marketing, enfin plein de domaines, elles s'éloignent de la base. Une église n'a qu'une base, et sa base, c'est la vérité qui vient de Christ. Et, vous voyez, et évidemment, l'autre chose absolument incroyable, c'est qu'elles sont attachées ensemble. Alors, quelle leçon spirituelle nous pouvons dégager de cela et de la base et de ces barres qui les attachent ensemble? Vous en voyez?
Déjà l'unité.
L'unité, oui. Elles sont rapprochées, elles sont... Oui.
Et qu'entre nous, on doit être... se tenir la main.
Se tenir la main. Mais c'est plus que ça. Vous avez une barre. Vous avez, vous voyez, les planches étaient transpercées et une barre les traversait toutes. Et cela représente le Saint-Esprit. Alors, on peut aller dans 1 Corinthiens 12... vous avez entendu parler de cette expression, avoir été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Et là, les planches ont été transpercées par une planche pour former un assemblage. 1 Corinthiens 12, quelqu'un veut lire le verset? 12 ou 13, je ne sais plus.
Nous avons en effet tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit.
Voilà. Et donc, il y a un lien dans la maison de Dieu d'aujourd'hui qui relie tous les chrétiens. Ce lien spirituel est symbolisé par cette barre qui est commune à toutes les planches. Et donc, quand on rencontre un frère, eh bien, on rencontre aussi quelqu'un qui a été traversé par cette barre et qui fait partie de l'édifice de Christ. Vous voyez ? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et c'est la seule définition dans les épîtres du baptême du Saint-Esprit. Cette expression « baptême du Saint-Esprit » a été utilisée pour plusieurs choses. Dans les évangiles, elles sont toujours au futur. Jésus-Christ dit « vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Et puis il y a la réalisation de la venue du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Et puis 1 Corinthiens 12 qui nous montre cette unité du corps de Christ. Y a-t-il des questions sur ça? C'est clair? Alors, il y a ce lien spirituel, mais ce lien spirituel, c'est le plus fort. Après, les barres ont aussi... Il y en a d'autres qui ne sont pas à l'intérieur, mais qui sont extérieurs, qui sont contre les planches. Il y a une double unité pour les chrétiens. Il y a une unité spirituelle, je dirais, cachée, plus intime, puisqu'elle part dans le cœur. Et puis, il y a des choses qui se voient. Hein, d'autres... des choses qui nous tiennent ensemble. Hein. Et il y a, à cet égard, un passage... nous allons aller dans Éphésiens, parce que nous allons retrouver... dans Éphésiens, chapitre... Éphésiens... On peut lire... d'abord... Bon, chapitre 3 et 4, hein, où il nous est parlé d'un solide assemblage à un moment donné, en conclusion, et dans le donc, on peut dire, au sujet de l'unité, c'est le chapitre 3, il y a un seul baptême, un seul... C'est le 4.
Le 4.
Voilà, vous voulez lire, quelqu'un veut lire ce passage ? À partir du verset 16...
C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa fortunité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Version
sonore. Ah oui, il faudrait la lire d'une version plus classique parce que...
C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties,
voilà.
Et s'édifie lui-même dans la charité.
Voilà. Ce corps, quand même, parce que l'expression est vraie, un solide assemblage, c'est ce que je vous ai souligné, par Christ, hein, par l'action du Saint-Esprit, il y a un assemblage solide qui est basé sur la présence de l'Esprit et qui est basé aussi sur la vérité de la parole. Après, quand vous lisez Éphésiens 4, vous découvrez tous les aspects importants de l'Église. Il y a une unité interne, mais il y a une unité apparente. De même qu'il y a une barre qui traverse toutes les planches, et puis il y a des barres extérieures qui aussi tiennent ensemble. Oui ?
C'est l'amour aussi qui permet... C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que
l'on
peut reconnaître.
Voilà. Alors l'amour que les autres voient, ce sont ces barres, hein, qui voilà, la façon dont nous vivons ensemble, l'esprit dans lequel une église peut vivre ensemble, c'est les barres, hein, que l'on voit. Et les gens le remarquent, cela. Bien sûr, un inconverti ne peut pas saisir toute la profondeur des pensées de Dieu par l'Esprit. Comme dit un Corinthien, il ne les reçoit pas, elles sont étrangères à lui tant qu'il n'est pas converti. Mais il est quand même, il peut goûter à l'Esprit dans le sens qu'il peut percevoir des fruits de l'Esprit qui se dégagent dans la façon dont une Église vit, dont elle sert le Seigneur. Et c'est quelque chose de précieux. Comme la maison de Dieu aussi a un fondement. Les fondements, qui est le rachat, son fondement est précieux. D'ailleurs, dans Éphésiens 2, il nous est dit que vous avez été édifiés, excusez-moi encore, je ne peux pas lire les chiffres, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, c'est le socle, le double socle. on a un double socle. L'Église ne repose pas sur n'importe quoi. Ce n'est pas une idée humaine, même. Les humains ont eu toutes sortes d'idées d'organisation, d'association, de... Voilà. Mais l'Église est quelque chose qui est divin dans le sens même jamais un être humain n'aurait pu concevoir une Église dans sa vérité profonde. Après, malheureusement, ils ont déformé et des grosses églises officielles se sont développées, mais sur d'autres socles que les apôtres et les prophètes, malheureusement. Vous voyez ? Et toutes ces choses sont des leçons absolument précieuses. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, demander quelque chose ? C'est un peu plus clair ce texte avec les planches, les socles, et tout d'un coup quand on le relit, ça touche davantage et c'est plus enrichissant. Et l'argent des bases provenait de ce que Dieu avait demandé, une offrande de demi-cycle. Il y avait plus de 600 000 hommes dans Exode 38, 25, vous avez cela, qui avaient apporté des offrandes et chacun payait un demi-cycle d'argent. C'est quelque chose que l'on retrouvera dans les évangiles quand il est demandé à Jésus, mais vous demandez si Jésus paye l'impôt, est-ce qu'il paye l'impôt ?
Oui.
Alors à un moment donné, il est question de l'impôt du temple, pas de l'impôt de César. Parce que Jésus-Christ répond, mais enfin, un roi qui a un fils, est-ce qu'il fait payer les impôts à son fils ? Et moi, quand je suis au temple, je suis dans ma maison, c'est chez moi. Pourquoi je payerais des impôts ? Mais afin de ne pas être un objet de scandale, voici ma contribution et pour moi et pour Pierre. Mais il a saisi l'occasion, le Seigneur, pour montrer qu'il était chez lui. Et c'est remarquable, ça. Donc là, nous avons cet édifice avec 96 bases, plus 4 bases pour les angles. C'est doublé, hein. Bref, chaque base, on estime qu'elle pesait à peu près 45 kilos, un talent. Donc l'estimation totale de la structure solide, avec les planches, avec les rideaux, que l'on verra la prochaine fois, hein, nous amène à un total de 54 tonnes. Et oui, 54 tonnes. Hein, c'est... Combien c'est un semi-nœud ? 27 tonnes, voilà. Deux semi-nœuds. Ah, s'ils avaient pu voyager avec des camions modernes, c'était deux semi-remorques. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, donc il y avait des fils de Lévi, je crois que c'était les Mérarites, qui avaient la charge de porter, hein, dans le nombre 7, vous apercevez qu'on leur a offert des chariots et des bœufs pour pouvoir, c'était les semi-remorques de l'époque. Dans le nombre 33, on n'a pas le temps, ça nous prend un peu trop de temps ce soir, dans le nombre 33, vous découvrez que les étapes dans le désert. Donc il y en a eu une quarantaine. Donc on estime que le temple, le tabernacle a été monté et démonté une quarantaine de fois. Donc ça... Voilà, donc ça... Et bien sûr, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque planche est recouverte d'or. Il y a 1 Corinthiens 1 qui serait intéressant de lire. 1 Corinthiens 1, il est parlé de la gloire. Et là encore, je suis vraiment désolé, en ayant mis mes lunettes, il y a des choses que je pense dire comme ça, plus rapidement, sur... Alors, un des versets parle du fait que nous portons la gloire de Dieu et nous sommes comme ces planches, quoi. Alors, ben, vous le chercherez. Hein, et vous, voilà. Nous sommes revêtus de Christ, hein, et de sa grâce. Et comme nous l'avons dit, les barres extérieures peuvent représenter très bien les manifestations visibles de l'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit. Et la barre intérieure, on a l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Alors voilà ce que l'on pouvait dire de ces barres. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Je crois que je ne sais pas si je vous ai montré toutes les diapos à ce sujet. Oui, je pense que oui. Évidemment, après les largeurs, il y aura des colonnes, mais il y aura des rideaux. Et nous parlerons la prochaine fois chiffon. Parce que ce soir, c'était plus pour les hommes, les bicolores. La prochaine fois, sera pour les dames et le côté chiffon. Mais on voit que c'était hyper solide et c'était stable, avec ses bases, avec ses barres. Vraiment, c'était quelque chose de stable. Et parfois, on se dit, mais comment une église peut tenir, hein? Tant qu'elle garde les bases et tant qu'elle garde cette unité de l'esprit, elle sera stable. C'est cela qui nous tient ensemble et qui nous permet d'avancer. Alors maintenant, je vais vous faire voir qui a le don d'observation. Déjà, dans cette structure, il y a trois choses qui n'existent pas. Ouais.
Fenêtre.
Pardon ?
Fenêtre.
Il n'y a pas de fenêtre. Très bien, pas de fenêtre. Et la seule source de lumière à l'intérieur, c'est le chandelier. Dans le dessin, et la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? Mais sinon, c'est sombre. Il n'y a pas... Voilà. Hein. Donc, cela représente, quelqu'un a dit, ben, cela nous montre un peu la situation de la maison de Dieu dans le monde actuel. S'il n'y avait pas la lumière de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, ça serait les ténèbres complètes. Et donc, on est dans l'obscurité morale de ce monde. Et notre vie, notre service, ne devrait être placé que sous cette lumière-là. Alors souvent, il y a des... je sais que beaucoup d'œuvres et d'églises s'organisent, même comme ils abandonnent un peu les socles de la parole, ils vont même faire des statistiques par rapport aux finances, par rapport à ceci, à cela, et font des... Au fond, éclairent le fonctionnement et la vie sur des principes humains, mais pas à la lumière de la parole de Dieu. Alors on prépare l'Assemblée Générale du mois de mars, pour ceux qui sont membres, mais le prochain rendez-vous de formation sera sur, le sujet sera l'Église et l'État, l'Église et la loi. Et comment honorer la loi, mais sans être, comment dire, à un moment donné, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On n'est pas là, on n'est pas éclairé par la loi, on la respecte, mais notre source de lumière, ce n'est pas ces fenêtres-là, il n'y en a pas de ces fenêtres-là. C'est la parole de Dieu qui nous inspire. Donc, on ne fait pas des audits, on ne fait pas des choses qu'on trouve en entreprise. Il y a beaucoup de façons d'analyser les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il y aura des rideaux. Ce n'est pas des portes, mais il y a quand même des rideaux grands. Pas, très bien, pas de siège. Et quelle leçon peut-on tirer de ça?
Il faut rester debout.
Il faut... Bien. Voilà. Et rester debout, ça veut dire? Éveillé, certes, quoique il y en a qui peuvent dormir debout, hein. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas de servir.
Actif.
Et que ce monde n'est pas un lieu de repos. Et, alors, quand il y avait, quand les Lévites venaient pour servir, alors comment ils faisaient? Ben, ils accueillaient les gens, ils tuaient l'animal, etc. Ils s'occupaient, ils allaient dans le lieu saint, ils veillaient à ce que... Il y a du feu pour l'autel, pour le chandelier, tout. Ils rentraient, ils sortaient, mais il n'y avait aucun coin détente, salon, post-café. Vous savez, comme ça existe dans les services hospitaliers, tout, il y a un coin, voilà, un coin pour le break.
Pour la pause.
Et quelqu'un, c'est pas moi qui ai trouvé ça, hein, je vous le dis, quelqu'un me. Une des études que j'ai regardées, que j'ai lues, m'a apporté l'attention là-dessus. J'ai trouvé ça remarquable. Pas de siège. Alors après, ils se relayaient, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, les Lévites, surtout après, quand ils seront dans les louanges, ils auront des temps. La loi nous l'explique. Hein. Ils servaient de 25 ans à 50 ans. Après, ils s'arrêtaient. Donc, ils étaient remplacés. Voilà. Ah, c'était la retraite, et là, elle était... Mais en fait, après, d'autres prenaient la responsabilité, mais il y a des passages, je vous montrerai ces passages, sont assez intéressants sur ce sujet-là, parce que c'est des choses, voilà, que Dieu y avait pensé, de pouvoir renouveler, de pouvoir, voilà. Et là, il n'y a pas de siège. Donc, on peut dire dans un sens que notre travail n'est jamais terminé. Hein. Le Seigneur va nous utiliser jusqu'au bout. Hein. Et ce n'est qu'après avoir achevé son œuvre, être remonté au ciel, que même le Seigneur fut invité à s'asseoir à la droite du Père. Et donc, que dit le psaume? C'est le psaume 110.1. Quelqu'un veut lire le psaume 110.1? Je crois que c'est « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse... » C'est bien celui-là.
« Tes ennemis pour marcher. »
Psaume 110.1.
« Parole de l'Éternel à sa mission. » Je chanterai la bonté et la
justice. » Non. 110. Oui, 110, oui.
Excusez-moi. Je recommande. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied.
Voilà. Ça, c'est un passage qui concerne Jésus-Christ. C'est une prophétie sur Christ qui est reprise 6 fois dans le Nouveau Testament. C'est intéressant. Et la troisième chose qu'il n'y avait pas. Il n'y a pas de couloir. Il y a quelque chose qui n'y est pas, dont on a parlé tout à l'heure en conseil d'église. Georges.
Ouais, je réfléchis.
Non, c'est pas la cuisine. Mais ça concerne cette pièce. Le plancher.
Le plancher.
Il n'y avait pas de plancher. Alors, certaines choses touchées par le sol, on a vu, hein, les planches sont sur des socles d'argent, mais c'est la situation présente de la maison de Dieu. On est encore à marcher sur le sable et le désert de ce monde, on va dire le désert. Alors que la cité céleste, quand vous lisez Apocalypse, elle est pavée d'or. Voilà. Mais pour le moment, nous marchons dans le désert de ce monde et nous nous empoussiérons et nous devons nous laver et ceci et cela. Donc voilà, c'est tout un programme de maintenir le service dans la maison de Dieu. Donc il n'y a pas de fenêtre, pas de siège et pas de plancher.
Et du coup, l'endroit a été fait le sol.
Ah ben c'est ah, même le sol sur le désert. Oui, oui. Sur le désert. Et ainsi, nous voyons, quand on étudie le tabernacle, que les matériaux utilisés ont toujours un symbole, représentent les mêmes choses. Hein. Le bois d'acacia, dont sont faites les planches, ou il y a une autre expression, bois de sittim aussi, qui est employée. Hein. Un bois imputrescible. Alors, on l'associe à l'humanité de Christ et la... Le côté que Christ était pleinement homme et absolument sans péché aussi. L'or, qui est toujours symbole de ce qui est divin, l'argent, qui symbolise la rédemption, l'airain, forme de bronze, matériau qui résiste au feu et qui est une image de la justice et du jugement. Et puis, nous aurons les étoffes. Le fin lin avec des couleurs, le bleu qui représente le ciel, le pourpre, la royauté, l'écarlate rappelle le sang de Christ. Hein. Et puis on verra la prochaine fois les couvertures qui viennent, qui sont faites de différents matériaux et qui aussi ont une utilité à la fois pratique immédiate, mais aussi symbolique. Est-ce... Oui.
Le fait de parquer, c'est aussi un peu la symbolique de garder le contact avec la réalité des choses.
On peut donner plusieurs applications sans rien trahir. Nous sommes encore, comme quelqu'un a dit, le chrétien, c'est celui qui a les jambes les plus longues du monde. Il est assis au ciel et il doit avoir les pieds sur terre. Donc, on a une position céleste en Christ, mais on est dans ce monde. Et c'est vrai qu'il y a eu des mouvements dits spirituels qui ont voulu se couper du monde. Et qui ont voulu peut-être vivre hors sol, pour reprendre l'image. Ce qui n'est pas ce que Dieu nous demande. Donc, c'est tout un défi d'être dans le monde sans être du monde. Donc c'est un équilibre, hein. Mais c'est vrai, c'est une pensée qui est complète, hein. Tout à fait. Voilà, j'ai terminé le... Donc on a vu la structure, hein, donc ceux qui savent bricoler apprécieront le... ceux qui savent du métier apprécieront le... comment c'était fait, les dimensions et tout. Et qui vont... Oui,
attendez. Il y avait aussi, il y a quelque chose qui me travaille un peu, c'est que quelle que soit la stabilité, il y avait ce qu'on pouvait avoir appelé les gens, les précurseurs qui étaient avant, pour préparer le chemin. C'est-à-dire qu'il y avait, là, si, même si c'est du sable, c'est accidenté, il fallait qu'il y ait des précurseurs qui préparent la surface pour que tout soit posé sur un lieu déjà... Il fallait enlever les pierres, du sentier, voilà. Dégager la route.
Oui, comme même pour le Seigneur, et Jean-Baptiste a préparé son chemin.
Et oui.
C'est bien. Voilà, donc, mais c'est absolument riche, hein, et plus on s'imprègne, plus on avance dans les choses, et donc on verra la suite donc dans 15 jours. On va peut-être terminer par la prière. Peut-être Hélène, tu veux bien prier, et aussi pour ma vie.
Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous découvrons toujours ce que tu veux nous dire. Et fait que nous voyons vraiment où tu veux nous amener dans cette visualisation du tabernacle, Seigneur. Merci pour pour ta parole et nous voulons encore t'apporter Maggie pour cette réunion de demain vers 16h à l'hôpital. Seigneur, merci de guider toutes choses. Toi, tu sais quel est le nombre de ses jours et tu peux la guérir, tu peux faire quelque chose dans sa vie, Seigneur, et permettre qu'elle témoigne aussi. Seigneur, nous te la remettons et nous te prions de tout conduire les chirurgiens dans leur décision. Merci, Seigneur, de lui donner ta paix et merci de nous raccompagner chacun chez nous. Amen.
Amen. Voilà, bon retour à chacun.